Vous écoutez RFI et on vous en remercie. Les 5h30 ici à Paris, 6h30 à Goma. Et autre bénédiction, celle de retrouver Nemo en piste pour le journal. Bonjour Nemo.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Alors la une de votre journal, Nemo, l'est de la RDC face à l'afflux de blessés dans les hôpitaux.
Et face à une dynamique inquiétante depuis le début de l'année, les professionnels de santé soignent quasiment autant de combattants que de civils. C'est le cas dans la province du Nord Kivu, nous sommes à Goma. Un conflit au cœur d'une visite d'État. João Lourenço, le président angolais, est attendu en France ce jeudi. Lui qui est l'un des principaux médiateurs entre la RDC et le Rwanda. Une initiative fermement soutenue par Paris. Les deux voisins qui se partagent l'un des grands lacs de la région, le Kivu, pourrait-on en extraire du pétrole? Rien ne le prouve à l'heure actuelle. Mais Kigali fait part d'occurrences d'hydrocarbures dans le bassin après une étude sismique. Et puis ce classement annuel dans lequel on retrouve les pays où les chrétiens sont les plus persécutés au monde. Dans les 7 pays où le taux est le plus élevé, 5 sont africains et parmi eux, le Soudan et le Nigeria. Un nombre croissant de blessés de guerre recensés depuis le 1er janvier par les organisations humanitaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Conséquence directe des combats qui font rage entre l'armée congolaise et ses alliés et le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Plus de 400 patients, par exemple, reçus en à peine 2 semaines dans le territoire de Masisi et à Goma, dans la province du Nord Kivu, où plusieurs fronts ont été ouverts. RFI Goma, Héritier Baraka.
Les hôpitaux de Numbi et Minova, dans la province voisine du site Kivu, ont accueilli 192 blessés, celui de Nyabiondo 81, tous soignés par Médecins sans frontières MSF. Le CICR, une autre organisation humanitaire qui intervient dans la prise en charge des blessés de guerre, craint la détérioration de ces situations dans les jours à venir, comme l'explique Myriam Favier, chef de la sous-délégation CICR à Goma.
Rien que sur CBKN Docho, par exemple, on a reçu 138 blessés entre le 1er et le 12 janvier, qui est quand même assez alarmant. C'est que si la tendance initiale était de recevoir plus de porteurs d'armes que de civils, ces deux dernières semaines ont prouvé que la tendance est en train de, en tout cas, s'équilibrer et qu'il y a énormément de civils qui sont malheureusement touchés. Donc on doit rappeler aux parties au conflit qu'il faut respecter le droit international humanitaire. On a entendu que le centre de santé de Ngungu aurait été touché.
Selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Tchad, plus de 100 000 personnes ont fui les combats depuis début janvier. Mercredi, de violents affrontements étaient encore en cours. Silax Ngungu dans les Masisi, à 70 km à l'ouest de Goma. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Et ce conflit qui dure dans l'est de la RDC, il ne manquera pas d'être évoqué ce jeudi à Paris à l'occasion de la visite d'État du président angolais, João Lourenço. Il doit être reçu par son homologue Emmanuel Macron. Objectif, renforcer les liens bilatéraux et évoquer les principaux sujets régionaux et internationaux, alors que l'Angola doit prendre la présidence de l'Union africaine le mois prochain. Luanda qui tente de jouer un rôle dans la médiation entre le Rwanda et la RDC dans le conflit qui les oppose. La France soutient par ailleurs ces efforts et ils seront au cœur de l'entretien entre les deux chefs d'État, fait savoir l'Élysée. Plus de détails avec Lisa Fabian.
La France soutient totalement, soutient fortement, soutient activement le processus de Luanda entre la RDC et le Rwanda. Ce sont les termes martelés par l'Élysée en préambule de cette visite d'État du président Lourenço à Paris. Les efforts de l'Angola dans ce dossier sont très forts, mais ils sont aussi difficiles, je cite, particulièrement depuis l'échec du sommet qui devait réunir les présidents congolais et rwandais en décembre. L'Élysée assure que tous les sujets seront mis sur la table au cours de cette entrevue entre Emmanuel Macron et son homologue angolais, avec pour objectif de faire avancer la paix et de relancer le processus de Luanda. Des sources diplomatiques occidentales ont révélé récemment que la question des sanctions contre le Rwanda n'est plus un tabou, même si les pays africains, notamment ceux qui siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, se montrent toujours très réticents. Le sujet pourrait donc être abordé à Paris afin de pousser João Lourenço à agir en sa qualité de médiateur et de futur président de l'Union africaine. Jusque-là, l'organisation continentale n'a jamais évoqué la présence de militaires rwandais dans l'est de la RDC, présence pourtant attestée par plusieurs rapports des Nations Unies.
Et autres enjeux lors de cette visite d'État, ils seront économiques avec la finalisation de contrats et de financements, notamment dans le domaine de l'eau ou encore des satellites. Alors que Paris tente de diversifier ses investissements au-delà du pétrole, on y revient dans nos prochaines éditions et à l'occasion de ce séjour de deux jours de Joe Lorenzo à Paris, notre invité Didier Péclard, professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Genève, il sera au micro de Christophe Boisbouvier. Le lac Kivu abriterait-il des réserves pétrolières ? La question est posée après une annonce de Kigali ce mercredi qui affirme avoir identifié de potentiels puits d'or noir dans les profondeurs de ce bassin de près de 2700 km² partagé, encore une fois, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais pour l'heure, rien n'est encore prouvé. À Kigali, la correspondance de Lucie Mouillot.
Selon l'agence gouvernementale du RMB, le Bureau rwandais des mines, du pétrole et du gaz, une étude sismique commandée par Kigali identifie 13 sites de forage potentiels pour confirmer la présence d'hydrocarbures dans le bassin du lac Kivu. Une annonce qui rectifie la déclaration faite plus tôt ce mercredi pendant une réunion parlementaire par le PDG du RMB sur la découverte de pétrole. La présence de l'or noir dans le Kivu n'est pas encore prouvée, mais la nouvelle étude indique des occurrences d'hydrocarbures dans le lac. L'agence publique appelle dans un communiqué à la participation de nouveaux acteurs pour les prochaines étapes. Les recherches sur de potentiels puits de pétrole durent depuis plus d'une décennie. En 2017, Kigali et Kinshasa avaient même signé un accord d'exploration de 5 ans, dont les conclusions n'ont pas été rendues publiques. Le lac Kivu est déjà source d'énergie pour le Rwanda à travers l'exploitation des très larges quantités de méthane piégé dans les profondeurs, transformées pour la production d'une partie de l'électricité du pays. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Daniel Chapu est devenu hier le 5e président du Mozambique, permettant ainsi au Frelimo, parti au pouvoir depuis près d'un demi-siècle, de conserver son hégémonie. Lors de sa prestation de serment, il a juré de remplir fidèlement la fonction de président de la République pour les 5 prochaines années. Investiture à Maputo dans un climat social extrêmement tendu. En marge de la cérémonie, l'ONG Plataforma a décidé à recenser 7 personnes tuées dans des manifestations dans la capitale, mais également dans le nord, à Nampula. De son côté, le candidat malheureux à la présidentielle, Venancio Mondlane, continue de contester l'élection de Daniel Chapu. Lui poursuit une visite officielle de 3 jours. Faustin Archange Touadéra est arrivé hier en Russie. Le président centrafricain doit, selon le Kremlin, rencontrer son homologue Vladimir Poutine aujourd'hui. Au programme des discussions entre les deux hommes, et toujours selon cette source, l'état et les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans différents domaines, pêle-mêle politique, commercial, économique et humanitaire. Plus de détails là aussi dans le prochain journal de 6h30, heure de Paris. Dans la prochaine édition, toujours les suites de ce témoignage que vous avez peut-être entendu ou lu sur RFI.fr. Celui d'un jeune Camerounais enrôlé dans une société paramilitaire russe pour combattre en Ukraine alors qu'il pensait trouver du travail. Il a pris la parole de manière anonyme pour éviter que d'autres ne suivent le même chemin. Et ce jeudi, autre témoignage, donc celui de l'épouse d'un autre ressortissant camerounais, également enrôlé. Elle est sans nouvelles de lui depuis fin juillet 2024. Ce classement annuel à présent dévoilé par l'ONG protestante Portes Ouvertes, qui liste les 50 pays du monde où les chrétiens sont le plus persécutés pour leur foi. Un rapport qui montre une augmentation de la persécution, et cela partout dans le monde, mais aussi et surtout en Afrique subsaharienne, avec dans le haut du classement depuis plusieurs années déjà le Nigeria, premier pays en termes de personnes tuées, comme nous le dit Guillaume Guenec, directeur du plaidoyer pour cette ONG Portes Ouvertes.
Alors le Nigeria, ça fait 10 ans que c'est le premier pays où les chrétiens sont tués en raison de leur foi. Et c'est le pays qui fait l'écrasante majorité, souvent des martyrs. Donc c'est une situation qui est très compliquée. Il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de violence. Il y a le groupe Boko Haram qui est toujours très actif. Il y a des extrémistes Fulani aussi qui vont faire des raids contre les villages chrétiens et massacrer les hommes, parfois enlever les femmes. Ça reste un pays qui, depuis de nombreuses années, on a fait le calcul avec les chiffres qu'on avait, on identifie que les cas de chrétiens tués en raison de leur foi. Donc quand on peut prouver que c'est lié à l'identification au christianisme, depuis l'index 2015, on serait à 35 080 individus qui ont perdu leur vie parce qu'ils croient en Jésus.
Guillaume Guenec, directeur du plaidoyer pour l'ONG Portes Ouvertes avec Aram Beng. En Afrique du Sud, l'opération de sauvetage des mineurs illégaux qui se trouvaient depuis des mois dans une mine d'or abandonnée de Stilfontein à plus de 2 km sous terre est terminée selon la police. Depuis lundi, des professionnels ont remonté 246 survivants, mais aussi 78 corps sans vie. Une dernière descente doit être effectuée ce jeudi pour s'assurer que plus personne ne se trouve sous terre. L'Afrique du Sud encore, sur un tout autre sujet, Pretoria applaudit la mise en place d'un accord pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. C'est un premier pas crucial pour mettre fin à la sévère crise humanitaire qui concerne plus de 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza et que la Cour internationale de justice estime être possiblement génocidaire, estime le chef de la diplomatie sud-africaine, pays à l'origine d'une procédure auprès de cette CIJ pour tenter de prouver qu'Israël viole la Convention sur le génocide depuis le 7 octobre 2023. Les autorités sud-africaines demandent à présent que l'aide humanitaire soit rapidement acheminée dans la bande de Gaza et cela sans obstruction. La Tunisie pour refermer ce journal où l'une des figures de la lutte pour les droits humains dans le pays est derrière les barreaux depuis le mois d'août. Siam Ben Sedrine, détenue à la prison des femmes de Manouba, non loin de Tunis. Âgée de 75 ans, elle est accusée d'avoir falsifié le rapport final de l'instance Vérité et Dignité qu'elle dirigeait. Un document censé faire la lumière sur les violations des droits humains pendant les années de dictature. Depuis son incarcération, elle pointe du doigt des manipulations politiques et judiciaires et réclame sa libération immédiate. Et en signe de protestation, elle a entamé ce 14 janvier, date symbolique de la révolution tunisienne, une grève de la faim illimitée. Localement, plusieurs organisations la soutiennent. C'est le cas du Comité pour le respect des libertés et des droits en Tunisie. Je vous propose d'écouter son président, Mouyedine Cherbib.
Madame Ben Sedrine, qui est connue même avant la révolution en tant que militante contre la dictature de Ben Ali, c'était un symbole de la lutte contre la dictature. Elle a eu cette responsabilité importante pour la justice transitionnelle dans le cadre de cette instance. On lui a cherché des poux par tous les moyens et depuis août dernier, elle est incarcérée pour des raisons que personne ne connaît. Madame Siam Ben Sedrine ne supporte plus cette situation. C'est pour cela qu'elle met